sometimes sportsmanship in sport is sadly lacking, but in the Tour de France, it's definitely not.
La feuilleton Tour de France.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette.
Attention, on nous annonce une descente technique des coureurs.
Hop, la petite chute là, la petite faute, il déchausse les deux gars.
Il accélère. C'est Merckx qui est en tête et qui tire le peloton. Mon Dieu, d'ici, Eddy, ne me vive pas ça. Ne me vive pas ça, Eddy.
On se sentait toucher les gènes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer.
Je suis absolument pas fan du Tour de France et chaque fois que les vois passer, je suis ému aux larmes.
Ils empruntent des routes que nous empruntons.
Rien n'est perdu.
Et curieusement, ces routes les mènent là où nous n'irons jamais.
Allez-y, messieurs, partez. Voici le Tour de France qui commence.
Le maillot jaune, ça vient du fait que l'auto était publié en page jaune et non en page blanche.
De ça, mes vacances.
Et moi, j'ai des larmes aux yeux. Oh, écoutez.
Écoutez, Luc.
J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, il n'y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité.
Ce qui est aussi fabuleux avec le cyclisme, et c'est pour ça que je garde autant d'enthousiasme à le commenter, c'est que c'est aussi le seul sport au monde où vous pouvez parler de tout, sauf de cyclisme.
Je prends mon vélo sur ces hauts, je fais le Tour de France, je fais le Tour de France, je fais le Tour de France, je prends mon vélo sur ces hauts.
Parce que le vélo, c'est un sport de prolétaire.
Défaillance, coup d'éclat, rebondissement. Quel tour!
À l'origine, c'était pour faire vendre un journal, mais c'était aussi, quelque part, pour unifier un pays.
Attention, c'est la dernière descente du tour, mais elle va nous valoir encore des frissons, des émotions. Oh, quel tour, quel tour!
Ici, l'Alpe d'Huez, à vous le studio, nous fonçons vers l'arrivée.
Tour de France, tour d'enfance. 10e épisode, Eddy Merckx et Luc Varenne, les frères amis. On ne les imagine plus l'un sans l'autre, Luc Varenne et Eddy Merckx, le commentateur passionné et son champion, portrait de l'un par l'autre, comme il se doit. Vous évoquez la figure de Luc Varenne, évidemment, on l'a beaucoup dans nos archives. Qu'est-ce qui vous a appris, Luc Varenne?
La passion, l'enthousiasme, l'humour.
Rodrigo Benquez.
Je me souviens qu'à un moment donné, dans les années 70, le seul moyen d'avoir les résultats de football, c'était d'écouter la radio. Ça s'appelait En sport et en musique. Ça commençait à 15h. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tout le monde, il n'y avait pas assez de monde qui allait au stade, l'Union belge de football a décidé qu'on ne pouvait pas donner les résultats avant 15h45. Tous les matchs commençaient à 15h, mi-temps 15h45, deuxième mi-temps 16h, fin du match 16h45. Et donc on pouvait aller en direct et faire le tour de tous les reporters qu'il y avait à l'époque, et ils pouvaient parler de tout, du temps, sauf donner le résultat. Il fait beau, voilà. Ils pouvaient même donner la composition de l'équipe, dire voilà, voilà. Et le seul, c'était Varenne, qui disait, oh, bah, vous savez, le standard. Ah bah oui, je peux pas vous donner le résultat. Mais enfin, sachez quand même que le résultat fera trois fois plaisir aux supporters du standard. On avait compris, c'était 3-0. Je crois qu'au début, j'ai fait mon mémoire hein, sur l'analyse du discours de Luc Varenne, ce qui m'a permis quand même de le rencontrer, d'aller chercher beaucoup d'archives, etc. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une chouette relation avec lui. Je crois que lui avait besoin de temps pour comprendre, non pas que la télévision arrivait, mais l'impact qu'allait avoir la télévision. Parce qu'en fait, Luc Varenne, c'est un impressionniste. C'est quelqu'un qui donnait des couleurs au noir et blanc qui mettaient... Il y avait le coefficient Varenne dans tout. Et évidemment que lorsque Christian Piot, le gardien du Standard, faisait un arrêt, c'était un arrêt sans doute très beau, mais quand il ajoutait « aucun gardien au monde n'aurait pu faire un arrêt pareil », ou dire « oh, le tir de tel joueur du Standard est passé 3 cm à côté, et puis qu'à la TV, on voit qu'il est quand même passé 2 mètres à côté », là, à un moment donné, on s'est dit « il y a quand même un hiatus entre ce que raconte Varenne. Ah, oui, Merckx est mort, il est à l'agonie. Il était fatigué, quoi. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Après, il a compris ça, il a compris. Mais faire vivre, vibrer les gens, c'est quand même extraordinaire. Être là, un relais entre un événement et le public, waouh. Et la radio permet évidemment des choses que la télévision ne permet pas. En radio, tout est possible.
Vous l'avez fait là aussi, uniquement la radio ?
Non.
Non.
Non, mais je sais que quand j'avais 10, 12, 10 ans, 11 ans, avant que ma voix commence à muer, mon papa avait créé dans la région namuroise une troupe de théâtre. Et moi, je crevais d'envie de jouer, mais il n'y avait pas de rôle pour moi. Et en fait, il m'avait mis à l'entracte et je faisais le quart d'heure du sport. J'imitais, à l'époque, le trio magique du Tour de France qui était constitué d'Armand Bachelier avec cette voix inouïe. Avec... Georges Malfait et avec Luc Varenne. Et j'avais un succès incroyable. Je me suis dit, waouh, et là, faire vibrer comme ça les gens, je me suis dit, waouh. Mais quand on voit aussi l'histoire, le destin de Varenne, c'est quand même fou, quoi. Il arrive à l'époque, l'INR, c'était la guerre, et était Eaton Square à Londres. Et c'est le grand patron le reçoit, et en fait, il reçoit une convocation, mais il a toujours dit, c'était pas pour moi, on s'est trompé. Et alors on lui a dit c'est vous le gars qu'on attend. Et alors il sortait il avait fait la Légion étrangère et il dit j'ai répondu oui, comme on apprend à dire à ses chefs hein, pour pas les contrarier, mais je sentais bien que c'était pas moi qu'on attendait. Et alors on lui a fait passer des tests et il s'est fait jeter parce qu'il avait un horrible accent français du Tournaisis. Mais comment voulez-vous avec un organe pareil? On avait fait d'ailleurs le même coup à Armand Bachelier, hein. Avec un organe pareil, c'est impensable, quoi. Et puis, à un moment donné, il a été rappelé, après. Et on lui a dit, écoutez, finalement, on vous prend parce qu'on n'a personne d'autre. Et donc, il a commencé, il a fait la libération avec l'arrivée de Churchill. Et alors, il raconte ça, il dit, c'est le premier à avoir jeté ses notes, puisque tout devait être préécrit, et vous devez préécrire votre texte, soumettre au grand patron, qui était Alex Clos, je pense. Et donc, avec l'autorisation du patron, on pouvait lire ses feuilles. Sauf qu'à un moment donné, il y avait trois endroits stratégiques. Je ne sais pas si lui était au botanique. Il intervenait en troisième position. Et le premier disait, ah ben voilà, regardez, la première calèche, c'est celle de Churchill. La deuxième, c'est celle de sa fille Mary. Et le deuxième dit la même chose. Et puis quand Varenne raconte ça, c'est extraordinaire. Il dit, mais et moi, je m'apprête à dire, et voilà, Churchill dans la première voiture. Et ben, Mary dans ma deuxième, comme inscrit sur mes feuilles. Et puis à un moment donné, je regarde et je vois que pas du tout. Que ce qu'il y a marqué sur mes feuilles, c'est faux. Parce qu'en fait, Mary, elle est dans la même voiture que Churchill. Et donc, j'ai jeté mes feuilles. Je dis, Mary, qui évidemment est avec son papa chéri, qui l'aime, c'est bien normal, quoi, de plus naturel, qu'elle soit avec son papa, etc., etc. Et donc, le lendemain, réunion de crise, évidemment. Luc, ou tu racontes des conneries, ou c'est les deux autres qui racontent des conneries. Et donc, voilà, les deux autres, ils avaient fait scrupuleusement ce qui est marqué sur leur papier, et lui, pas.
C'est absolument extraordinaire, extraordinaire. La foule est déchaînée. Maintenant, nous le suivons, puisqu'on a dû tout de même le laisser passer.
Luc Varenne a retrouvé sa joie de vivre, sa raison d'exister, puisqu'Eddie Merckx est à nouveau dans la cour.
Jean Amadou.
La fidélité de Saint-Éloi pour Dagobert, l'admiration de Poniatowski pour Valéry Giscard d'Estaing ne sont que broutilles à côté du culte que Luc Varenne voue aux champions belges. Van Impe peut grimper, Mertens peut sprinter, Varenne condescend alors reconnaître la nationalité belge, mais du bout des lèvres. Il n'y a jamais eu pour lui qu'un champion. Et si, comme il l'a annoncé, Merckx se retire de la compétition à la fin de l'année, Luc, sans doute, à la RTB pour devenir le gardien de quelques musées à la gloire de son idole, vestale d'un temple dédié au plus grand. Rond de corps et de caractère, aussi célèbre en Belgique que le mannequin Pis, aussi éloigné de cette image du Belge que les histoires pas toujours très fines voudraient imposer à des Français pas toujours très fins, Luc Varenne est un monument du Tour de France. Il en a fait 30. De la répartie, un sens inné de l'image, possédant sur le bout du doigt cet art de la radio, consiste à faire vivre l'événement aux aveugles que sont les auditeurs et par l'oreille à leur montrer l'événement au point qu'ils ne sauront plus s'ils l'ont vu ou entendu.
Moi, pour moi, le plus grand souvenir que j'ai, c'est le 7e Milan San Remo d'Eddie Merckx. Milan San Remo se déroulait jadis toujours le 19 mars.
C'était vendredi. Et donc je suis à l'internat, au collège, et mon papa vient me chercher en voiture. Et il est 4h25, je monte dans la voiture, je dis « Papa, mets la radio, on ne sait jamais ». Et on est dans la descente du Poggio, il reste 3 km, on met le truc à fond. Et ce que Merz a gagné, son 7e, il y a 2 coureurs en tête, et puis on entend évidemment Varenne qui s'énerve. « Eddy, il va gagner, oui, non, Eddy, il va le gagner pour la 7e fois, oui, non, oui, non, oui, non ». Et puis pouf, on entend un bruit incroyable, et puis plus rien. Et pendant une minute, plus rien. Je dis, mais moi, je chipote à la radio, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Plus rien. Et à, comme on dit, ce qui ne peut jamais arriver en radio, vous n'allez pas me contredire, un blanc de une minute. C'est interminable. Hein bon. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui reprend l'antenne et qui dit « Écoutez, voilà, visiblement, on a eu un problème, Luc Varenne est tombé, etc. » Et donc, on attend. Puis 3-4 minutes après, on a mis une musique. Moi, je ne sais toujours pas qui a gagné, quoi. Je deviens fou. On a retrouvé Luc Varenne. Ah, écoutez, je suis tombé. Et alors, il commence à expliquer. Mais ça va, hein, ça va, je suis en vie. Hein. Et il commence à nous parler. Moi qui adorais Luc Varenne, je dis, mais Luc, on s'en fout. Il a gagné ou il n'a pas gagné? Mais ça va. Et alors, mon collègue italien qui me dit, Luc, t'es mort? Mais non, je t'ai pas mort, non, ça va. Et, mais Luc, mais allez, quoi? Il a gagné ou il n'a pas gagné? Et alors, oh, je ne vous l'ai pas dit. Mais évidemment, Eddie a gagné. Hein.
Oui, eh bien, voilà, moi, je retrouve en même temps exactement comme à Pralou, il y a 2 ans, le drame. J'arrive ici avec une avance de 2 minutes 25 et quand je retrouve ma place, il n'y a plus que 2 minutes entre Cueilper et le petit Lucien que je vois sur le petit écran, véritablement à la dérive, le pauvre petit, alors que Cueilper avance et avale véritablement les kilomètres. On ne s'attendait peut-être pas à ce coup-là. Van Impe n'a plus que 45 secondes d'avance sur Cueilper, 1,35 sur Sévenet et 1,50 maintenant sur Zoutemelk. Pauvre petit Lucien, pauvre de nous, mauvaise journée, alors que nous sommes passés par toutes les émotions, y compris celle d'Eddy Merckx, qui lui aussi était à l'abandon.
Lucien est tombé. Il était gêné par un spectateur ou par une moto, le temps de le dépasser, de se retourner, il est tombé, il est au fossé.
C'est un spectateur qui a fait tomber le petit Lucien.
C'est Pralou, mais en plus dramatique encore, il est remonté maintenant sur sa machine.
Un spectateur, c'est honteux quand même, hein. Ce pauvre petit.
Luc Cueilper n'est plus qu'à 10 mètres de lui.
Naturellement.
Voilà.
Mais on devrait arrêter cet homme.
Cueilper marche beaucoup plus fort.
Cueilper va le dépasser. Il manquait encore cela au pauvre petit Lucien. Je vous jure que c'est terrible cette journée. On croyait que c'était gagné. Et regardez-le, le pauvre, il n'avance vraiment plus. Il va être dépassé, il est pied à terre. Sa machine est détraquée. Oh là là, et bien pauvre de nous Belges. Mon Dieu Seigneur, Georges, tu es là tout près.
Luc,
oui.
Il est tout seul, il est arrêté, sa roue arrière est sortie, Cueilper est seul maintenant.
Oui,
Cueilper est seul et Lucien, il n'y a personne, mais où est la voiture d'Anglade?
Et Anglade alors?
Enfin Anglade s'amène. Ah, il faut voir le visage désespéré de Lucien, qui non seulement a été envoyé au fossé, Anglade s'amène enfin, on lui passe un nouveau vélo et on va relancer Lucien. On n'a jamais vu, mais c'est plus dramatique encore que Pralou.
C'est plus dramatique, c'est même honteux de la part d'Anglade de ne pas être là. Comment est-ce possible?
Faut éviter la mauvaise foi, parce que Luc Varenne était de mauvaise foi aussi, alors que c'est un grand commentateur.
Alors c'est une très bonne question. Moi je pense qu'on doit tous avoir un peu de mauvaise foi quand même. Allez, c'est vrai que déontologiquement, la mauvaise foi, ça n'est pas le top, mais c'est pas la pire des choses, un point de vue, je crois pas. Et parfois ça fait du bien d'avoir un peu de mauvaise foi, un peu de chauvinisme, surtout quand on a eu des années de vaches maigres. Mais c'est vrai que Luc était comme ça, mais c'était une autre époque aussi. Vous savez, on oublie aussi, hein, tout le monde pense que Varenne a vécu Brichant, Merckx, Jacques X, Paul Van Nimst, le grand standard de la fin des années 60, mais il a eu des années de vaches maigres, hein, parce que avant l'arrivée de Merckx, il n'était pas mieux fourni que moi dans les années 90 sur le Tour de France. Hein. Mais Varenne restait Varenne. Varenne pouvait se permettre aussi des choses.
Et vous aussi?
Je ne sais pas. Vous croyez?
Je crois.
Je pense que là, Luc est monté à nouveau sur la moto. Je pense qu'il y avait 20 ou 30 ans qu'il n'était plus monté sur la moto.
Vous étiez un peu en difficulté.
En difficulté. L'étape d'Ossian Merlette, c'était en 71, lorsque Ocaña a remporté l'étape d'Ossian Merlette. Et bon, je n'étais pas bien ce jour-là. Et Luc est remonté sur la moto pour venir m'encourager. Et c'est une image. Il y a celle-là. Et puis également le record du monde de l'heure en 72. Où Luc était un des seuls qui était présent et où il y avait peu qui croyaient dans ce record de l'heure.
Il a remporté, enfin il a battu le record de l'heure sur piste.
Éric Loos.
Donc c'est-à-dire qu'il faut en une heure faire le plus de kilomètres possible. Et Eddy Merckx a toujours dit que c'était l'exploit le plus dur qu'il ait jamais réalisé. Parce qu'il doit être à bloc tout le temps pendant une heure.
Et qu'il est toujours dans la même position.
Toujours. Et il ne peut pas se permettre de ralentir, il doit aller de plus en plus vite ou maintenir cette vitesse maximale pour faire le plus de kilomètres possible en une heure. Et il l'a toujours dit, je l'ai entendu dire après dans des archives, dans des interviews, bien après la fin de sa carrière, où il disait que c'était un exploit qui était vraiment presque surhumain. C'est quelque chose d'inouï. Et en plus, il a pulvérisé le record ce jour-là. Bon, après, le record a été battu, et c'est normal. Il l'a toujours dit aussi, un record, c'est fait pour être battu. Mais n'empêche que oui.
Eh bien, je crois, Eddy, qu'on peut dire que les vœux de tous les sportifs belges vous accompagnent dans cette aventure qui est peut-être la plus exaltante de votre carrière.
Merci, merci infiniment.
Sous le contrôle du professeur Petit et de ses collaborateurs, Merckx s'est bien préparé à affronter l'altitude et donc une atmosphère appauvrie en oxygène. Il faut tout de même souligner qu'il s'attaque, contre toute logique, au plus terrible des records. Sans disposer de réserve, sans avoir le temps de s'acclimater à la piste, au terme de sa plus lourde saison, durant laquelle il a gagné son 5e Milan-San Remo, sa 3e Flèche Wallonne, son 3e Liège-Bastogne-Liège, son 4e Tour de France, son 3e Tour d'Italie et son 2e Tour de Lombardie, entre autres. Partant à la manière d'un débutant qui ne doute de rien, il va à fond immédiatement. Et parce qu'il s'appelle Merckx, il résistera jusqu'au bout. Il va pulvériser au passage ce qui ne se fait plus, ce qui est ahurissant, les records des 10 et des 20 kilomètres.
Justement, le quotidien de la rue des Italiens, qui est sans doute le seul journal français merckxiste, consacre dans son numéro daté de ce dimanche 2 colonnes à un livre publié à Bruxelles. Il ne s'agit pas cette fois du cyclisme, mais d'un sport dans lequel nous affirmons également notre écrasante supériorité, et c'est le belgicisme. Si on se fie à Joseph Hans, Albert Dopagne et Hélène Bourgeois-Gielen, les auteurs de Chasse au belgicisme, voici comment il ne fallait pas rédiger le compte-rendu du contre-la-montre de cet après-midi. Merckx avait parlé de Rissens, il avait mal ses mollets et c'était biscant. Au surplus, qu'est-ce que ça était, ça, quand même, maintenant, pour un drôle de temps où on dirait qu'il ne sait pas faire beau? Et puis, est-ce qu'on avait bien passé la loque à reloqueter sur son vélo? Eddy n'en avait pas l'impression, car son mécanicien restait là planté comme une posture. Cependant, l'heure était venue. Drissens montra au dossard numéro 1 sa bicyclette et lui dit « Mettez-vous ». Puis il voulut fourrer dans les poches du coureur des gâteaux de riz et des fruits. Mais Eddy lui dit « Je n'ai rien besoin ». Filant tout de suite à une allure folle sur la route, Eddy arrive à hauteur de celui qui était parti 4 minutes avant lui, Zoutemelk. « Quoi ?» fit l'autre étonné. « Tu viens avec ?» Eddy haussa les épaules. Cela ne lui regardait pas. Débouchant sur la cipale, Eddy vit qu'il y avait assez bien de monde. Il eut un sourire. Son succès, il l'avait mérité. Au Tour de France, il était 3 ans parti pour la gloire et il était temps qu'il touche sa draguelle. Les reporters s'approchèrent de Merckx. « Dis-nous, Eddy, est-ce que ta victoire vous goûte ?»« Écoutez, n'est-ce pas ?»« Écoutez, répondit Eddy. Pendant tout ce tour, les journalistes français ont dit que j'étais grillé. Maintenant, c'est eux qui goûtent le brûlé. »
Est-ce qu'il y a une spécificité belge? Parce qu'on a eu quand même pas mal de champions. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une réponse?
Je pense qu'il n'y a pas une réponse. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Il peut y avoir le hasard aussi. Vous avez des générations comme ça qui arrivent. Et voilà. Mais je crois que, d'abord, le cyclisme fait partie de la culture des Belges. Avec quand même une petite nuance, mais je dois constater que, si du côté francophone le cyclisme est une passion, du côté néerlandophone c'est une religion. Et là il y a quand même une énorme nuance. Je le répète, comme on le voit sur les routes de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, il y a un engouement fantastique. Mais en Flandre, c'est Moi, je pense aussi que, et c'est ça, moi, qui m'enthousiasme aussi beaucoup, je crois que le public, c'est lié à l'arrivée de jeunes coureurs talentueux et le rajeunissement du public qui suit le cyclisme sont liés pour moi. C'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. Je ne sais pas qui est la poule et qui est l'œuf, mais je pense que c'est lié. Il faut toujours des locomotives. Hein. Mais je pense aussi qu'il y a la manière dont on roule. Et le cyclisme était en train un petit peu d'abord de payer quand même de ses erreurs. Hein, faut quand même être très clair. Alors je prétends pas que tout est résolu, qu'il n'y a plus la moindre manipulation aujourd'hui. La triche sera toujours présente. Et dans notre société, il n'y a pas de raison que le sport cycliste échappe à cela. Mais bon, la génération d'aujourd'hui est toujours paye les erreurs de la génération avant. Et donc, on est toujours sceptique devant une performance, plus que jamais. Quand on gagne trop, et trop nettement, bah, voilà, on se pose la question, et c'est légitime de se poser la question. Je vois de plus en plus de coureurs qui sont quand même très fatigués à l'arrivée. Je me souviens d'une étape du Tour, on arrivait à Megève, j'ai vu les 17 premiers s'effondrer devant moi, mais comme je n'avais plus vu ça depuis longtemps, ils avaient besoin presque qu'on leur mette l'oxygène. Bon, ce sont des faits. Mais au-delà de ça, le cyclisme était peut-être devenu un peu vieillissant, c'était plus, pas très fun. Et ça, c'est peut-être lié à ces champions, pour qui, ceux qui ont triché, je ne cautionne pas, c'est un débat. Moi, je parle plutôt de leur manière d'être. On a eu des générations de coureurs très, très talentueux, sans doute, un Miguel Indurain, on a eu du côté belge des gars comme Musset ou comme Van Petegem, mais qui étaient des gars très introvertis, qui n'étaient pas très, très peps pour la jeunesse. Et on a vu que ça a un peu changé ces dernières années, et avant l'arrivée même d'un Evenepoel ou d'un Van Aert ou d'un Van Der Poel ou d'un Pogacar, qui sont des gars qui plaisent, il y a eu Sagan. Moi, j'aime bien citer Peter Sagan, 3 fois champion du monde, qui commençait à faire des bowling en arrivant sur son vélo, qui avait des cheveux longs, qui rigolait, qui en fait montrait que ce métier est dur, mais qu'il était là pour s'amuser aussi, et qui prenait du plaisir et en donnait. Et moi, je pense que des gars comme ça ont peut-être contribué à un moment donné à donner l'envie de faire ce sport. En disant, ah, c'est fun quand même le vélo, parce que à une époque tout le monde se tournait plutôt vers le VTT, c'est plus gai, c'est plus fun le VTT, c'est moins dur. Mais je pense qu'il y a eu ça, et puis maintenant évidemment côté belge il y a une émulation, c'est évident que ce qui se passe là depuis quelques années avec les duels entre le belge Van Aert qui court pour une équipe néerlandaise et le néerlandais Van Der Poel qui court pour une équipe belge qui vit en Belgique, tout ça a suscité un grand enthousiasme. Maintenant ce qui arrive avec Evenepoel, ah, il gagne et la manière dont il gagne plaît, je crois.
Ah, dans les cyclistes aujourd'hui, j'aime beaucoup Wout Van Aert.
Pierre Marlet.
Pourquoi ? Parce qu'il a une énergie folle. Il ne compte pas. Ce qu'il a fait l'an dernier est absolument éblouissant pour faire gagner son leader. Donc c'est vraiment un coureur extraordinaire. Il est tellement généreux, peut-être parfois un peu trop. Cette année, voilà, il a tout pour gagner à Gamble Game. Il est le leader avec son équipier Christophe Laporte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit « T'as envie de gagner ?»« Oui, eh ben voilà, tu gagnes. » C'est quand même extrêmement, il a un panache fou, une générosité étonnante. Un peu de malchance aussi, malheureusement. Souvent deuxième, souvent troisième. On aimerait que
qu'il ne soit pas René Vietto, quand même.
Ne devienne pas René Vietto.
Vous avez évoqué Pogacar comme étant un de vos favoris. Pourquoi ?
Ah oui, c'est mon préféré. D'abord, pour sa courtoisie, sa joie de vivre, sa bonne humeur, il ira jamais. Il perd, il va saluer le vainqueur. Et puis cette manière de courir... D'abord, je ne connais pas d'autres coureurs depuis Eddy Merckx. Il me fait penser à Eddy Merckx. Parce que lui, au moins, il court toute l'année. Il est là dès le mois de février. Il fait des classiques. Pendant longtemps, ça date de l'après-INO, il y avait une hyper-spécialisation dans le vélo. Les coureurs de classiques se concentraient sur les classiques et ne faisaient pas les grands tours. Les coureurs de grands tours, à commencer par ce satané Armstrong, ne faisaient que le Tour de France quasiment dans l'année, c'est tout. Tandis qu'avec Pogacar, Alaphilippe a fait ça aussi. On voit des coureurs qui sont présents toute l'année. Et Pogacar plus que les autres. Il a fait le Tour des Flandres. Un vainqueur du Tour de France qui va gagner le Tour de Flandre, il n'y en a eu que 3 dans l'histoire. Ce n'est pas la même morphologie. Le Tour des Flandres, c'est des pavés, il faut être lourd. Pogacar, il est léger, c'est un grimpeur. Il y a Eddy Merckx qui a gagné. Louison Bobet ont gagné le Tour de France et le Tour de Flandre. J'en oublie peut-être un autre, mais c'est rare.
Quelle relation avez-vous nouée avec l'un ou l'autre coureur belge ?
Mais finalement, beaucoup moins. Beaucoup moins, oui.
Vous le dites avec regret?
Non, pas nécessairement. Peut-être qu'aussi avec les événements de ces dernières années, c'est peut-être mieux d'avoir un peu de recul. C'est peut-être plus facile. Le dernier coureur avec qui j'ai vraiment eu une relation très amicale, très proche, c'est marrant, c'est encore un qui est issu de la Terre, je dois les aimer ceux-là. C'était Claude Criquillon, qui est malheureusement décédé et qui était mon premier consultant, qui est un homme... Mais bon, je n'ai commenté que 2 ans, hein, donc les 2 premières années, 1990 et 1991, complètes, que j'ai commentées à la télévision, étaient ces 2 dernières années. Mais avec lui, j'ai eu vraiment une relation très forte. Mais je pense que c'est peut-être pas plus mal dans ce métier. Je pense qu'on doit pouvoir faire la part des choses. Alors j'ai beaucoup de respect pour eux, j'aime beaucoup mettre les champions en évidence, mais je crois que je ne suis pas certain qu'il y ait de la place pour une forme d'intimité trop grande. Alors c'est important d'essayer de les connaître et de les comprendre pour mieux pouvoir expliquer comment sont les gens, c'est évident. Mais j'ai pas de regret de la manière dont les choses se passent. Je pense que quand on est amené à parler autant d'heures de ces personnes-là, c'est peut-être mieux d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien affectif direct. Ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir de l'affection. Et c'est vrai que dans ce que je fais et ces dernières années, j'essaie de mettre en évidence pas uniquement les qualités physiques et mentales, mais beaucoup aussi l'émotionnel. Hein. Le psycho-émotionnel est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et le sport est un beau véhicule de ça. Il peut m'arriver d'avoir une discussion avec... Aujourd'hui, évidemment, ils sont beaucoup plus jeunes aussi. Hein, il y a une différence de génération. Mais avec le père, par exemple, d'un coureur, je peux faire la démarche spontanée, sans en parler à personne, d'aller à la rencontre d'un papa. Ça prend du temps aussi. Aller peut-être boire une tasse de café et d'essayer d'écouter et de comprendre certaines choses aussi. Ça m'aide. Vous savez, quand on parle tellement d'heures aussi et sans filet, on est toujours limite. Hein. On peut aussi, à un moment donné, lâcher des trucs qu'on ne voudrait pas dire.
Ça vous est arrivé, dire des choses que vous ne voudriez pas dire?
Écoutez, je n'y repense pas. Certainement. Alors, est-ce que c'est très grave? Non, je ne crois pas. Mais bien sûr, mais moi, je suis un perpétuel insatisfait. J'ai dû faire un très gros travail sur moi-même, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que je ne tenais pas le coup physiquement les premières années. Quand on a commencé à faire les Tours de France en intégralité, je me rends compte que physiquement, ça n'allait pas. Et tout simplement parce que mon gros problème, c'est le sommeil. Et je suis quelqu'un qui suis incapable de faire une sieste, qui peut être très réparatrice. Hein. À un moment donné, après une étape, quand on va vers l'hôtel, on passe... entre 1 et 3 heures dans la voiture, le fait de pouvoir dormir un petit peu, ça peut quand même aider. Moi, je suis incapable de faire ça. Et alors surtout, je suis un cérébral. C'est-à-dire que quand je me couche, il est déjà très tard sur le Tour de France. Vous savez, le temps de rentrer, de manger, de se doucher, de manger, de préparer l'étape. On n'éteint jamais la lumière avant minuit et demi, 1 heure. Et si vous voulez quand même être frais, pour commencer, il faut être sur la ligne d'arrivée entre 9 et 10 heures du matin. On a encore quelques kilomètres à faire. Donc vous êtes debout 6h30, 7h. Donc les nuits sont excessivement courtes. Et j'étais incapable de m'endormir parce que je ressasse tout. Donc au moment où je me couche, et j'aurais pas dû dire ça, et j'aurais dû dire ça, et j'ai parlé, pourquoi j'ai parlé de ça, et pourquoi j'ai oublié de parler de ça, et tata, et demain qu'est-ce que je dois faire? Alors donc, évidemment, mon cerveau ne se repose pas. Et j'ai été aidé, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, il y a des outils.
Est-ce qu'il y a eu le trac parfois chez vous?
Oui, mais pas le trac du micro, et pas le trac de l'antenne. De mon corps, c'est uniquement ça. J'ai eu le trac longtemps, maintenant c'est passé, longtemps, que de ne pas être capable d'aller au bout. Et je suis toujours dans une phase de décompression quand je coupe le micro. Et ça m'avait vraiment marqué avec Luc Varenne. Hein. Moi, je suis pas comme ça, mais Varenne, je me souviens, les 4-5 discussions qu'on avait eues ensemble, je vois l'appareil que vous avez devant vous maintenant, avec lequel vous êtes en train de m'interviewer, ben j'avais un petit appareil comme ça, un peu moins sophistiqué. Et en fait... Le micro que je lui tendais, c'était vraiment l'objet magique, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il n'était pas branché, il était comme vous, comme moi, un homme tout à fait normal. Et dès que je... À l'époque, on faisait play-rec, hein. Je faisais play-rec. Et là, c'était Varenne. C'était parti, c'était parti, c'était parti. Mais quand à un moment donné, il faut appuyer sur stop, eh bien, il redevient comme avant. Un type tout à fait normal. Bah, voilà. Moi, je suis pas tout à fait comme ça, mais...
Quoique.
Mais oui, mais je suis dans l'adrénaline. J'ai souvent tendance, après, à décompresser. Ma femme me dit que les 3 jours après un Tour de France, il faut... Elle me propose parfois même de partir seul 3 jours.
Oui, la joie. Parce que j'avais une formidable équipe autour de moi. Un Georges Malfait, plus merveilleux que jamais, qui l'an prochain sera mon successeur. Un Armand Bachelier, plus remarquable que jamais. Lui qui était déjà réputé comme un des plus grands journalistes, le voilà le champion, le maillot jaune des chroniqueurs du Tour et de ses alentours.
Et attaque de Froome.
Et quand t'adore,
voilà, Froome qui part à 7 km 200. Ça veut dire que c'est 3 km plus tôt. Et quand t'adore, ne sait pas y aller. Et la mobile est lancée. Aïe, 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 là. Lâchez les watts.
Tour de France, Tour d'enfance, 10e épisode. Eddy Merckx et Luc Varenne, les frères amis. Avec Rodrigo Menkens, Patrick Lebout, Pierre Marlet et Éric Lauze. Avec les voix d'Armand Bachelier, Jean Amadou, Luc Varenne, Philippe Brunel et la voix d'Eddy Merckx. Une proposition, une réalisation de Pascal Tison avec le soutien de la Sonuma Eddy Madoc. Un merci tout particulier à Alain Neves, Martina Gozzini et Didier Chatement.